Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste des 343 femmes qui déclarent « Je me suis fait avorter ».
Au lendemain de mai 68, le torchon brûle. Et celles qui le brûlent veulent urgemment libérer d'oppression séculaire la moitié de l'humanité. Elles sont les filles d'un scandale qui a pour nom Deuxième Sexe et ont pour référence tutélaire son auteur Simone de Beauvoir. C'est dire qu'elles sont prêtes à assumer toutes les audaces, comme celle de vouloir déposer, ce 26 août 1970, une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe. Une gerbe adressée à la plus inconnue que le soldat, sa moitié. Elles n'y arriveront pas. L'ordre patriarcal résiste. Ces femmes sont des activistes du mouvement de libération des femmes. Elles vont rentrer dans l'histoire en étant à l'initiative d'un renouveau de la révolution féministe. Son année zéro même, comme elles le proclament dans la revue Partisan de François Maspero. Aller au-delà de revendications féminines pour l'égalité des droits afin de gagner l'égalité des sexes, voilà leur objectif. Il faut pour cela, enfin, disposer de son corps, en être les seules maîtresses, ne plus être à la merci d'amants, d'harceleurs ou violeurs. Comme toute révolution, ce ni dieu ni maître dans le genre a son hymne, Debout les femmes. Une devise, notre corps nous-mêmes, et ses mots d'ordre. Un enfant, si je veux, quand je veux, comment je veux. Ou encore, qu'on sait non, ce n'est pas oui, c'est non. Des proclamations théoriques et un manifeste, aussi court que percutant, lancé le 5 avril 1971, à la une du Nouvel Observateur. 343 femmes affirment « Je me suis fait avorter ». Un délit pénal. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Michel Perrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, on vous doit des travaux sur la condition ouvrière ou encore sur le système pénitentiaire. Et vous êtes aussi une pionnière. Vous avez contribué à l'émergence comme champ disciplinaire de l'histoire des femmes et du genre. Votre dernier ouvrage, qui retrace votre parcours d'intellectuelle et de citoyenne engagée, vient de paraître chez Grasset, à l'initiative d'Eduardo Castillo, Le temps des féminismes. Sylvie Chaperon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine du genre à l'université du Mirail Jean Jaurès. Vos travaux portent sur l'histoire des femmes, du genre et des origines de la sexologie. Votre dernier ouvrage, Idées reçues sur le clitoris au Cavalier Bleu, paru en 2022. Michel Perrault, la revendication de l'avortement n'allait pas de soi au sein du mouvement des femmes historiquement?
Non, pas du tout. Ceci dit, il y a eu des pionnières. Par exemple, Madeleine Pelletier, qui était médecin par ailleurs, et qui dès 1913 avait publié un petit livre sur le droit à l'avortement. Et entre les deux guerres, un petit peu avant et entre les deux guerres, il y avait le mouvement qu'on appelle néo-malthusienne, et néo-malthusien, néo-malthusienne. Par exemple, Jeanne Imbert. Là-dessus, je voudrais rappeler les livres tout à fait pionniers de Francis Roncin, La grève des ventres, qui est paru en 1980, et Roger-Henri Guérand, Libre maternité, qui ont précédé les livres dont nous allons parler aujourd'hui, Sylvie Chaperon étant tout à fait fondamentale. Alors, pour revenir aux femmes elles-mêmes, non, ça n'était pas simple du tout.
C'était plutôt les milieux anarchistes.
C'était les milieux anarchistes, les milieux libertaires, néo-malthusiens. Et il faut bien voir que le Parti communiste et l'Église catholique n'étaient guère favorables à tout ça. Alors, avec une différence quand même. L'Église catholique, l'encyclique Humanae Vitae 1968, la même année que le mouvement de 68, qui rappelle qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des relations sexuelles en dehors de la reproduction. Voilà. Et évidemment, vous imaginez bien que l'avortement dans ces conditions est absolument proscrit. Pour le Parti communiste, c'est plus compliqué parce que l'avortement, il veut bien. Après tout, ça se fait en Union soviétique, donc pourquoi pas en France. Mais le Parti communiste est vent debout contre la contraception. Comme disait Jeannette Vermeersch, dont on parlera peut-être, les femmes du peuple ne doivent pas avoir les vices des femmes de la bourgeoisie.
On reviendra sur ces débats, en particulier dans les années 50, mais Sylvie Chaperon, dans les années 20, c'est quoi la législation sur l'avortement et qui va durer très longtemps ?
Alors, déjà, dès le code pénal de 1810, il y a l'article 317 qui interdit l'avortement, hein, qui est lourdement sanctionné. Et effectivement, en 1920, il va y avoir une loi complémentaire pour aggraver en quelque sorte, puisque non seulement l'avortement est interdit, mais aussi la contraception, mais aussi l'information sur la contraception, mais aussi l'information sur l'avortement, ce qui est appelé dans la loi la provocation à l'avortement. En fait, c'est une loi qui a été faite par la Chambre Bleu Horizon au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui accélère le déclin démographique de la France et qui vise en fait à décapiter le mouvement néo-malthusien, hein, et persécuter le mouvement néo-malthusien. Donc la presse pourra être censurée, les leaders peuvent être emprisonnés, puisque informer sur la contraception, informer sur l'avortement devient un délit.
Et en fait, il n'y a qu'en Union soviétique, à ce moment-là, qu'il y a un avortement qui est légal.
Oui. Oui. Alors, il y a l'avortement thérapeutique qui peut exister, hein, qui existe souvent depuis le milieu du 19e siècle, mais c'est un avortement qui est...
très encadré.
Oui, qui est limité à quelques cas très précis quand la vie de la mère est en danger.
Oui, ce que je voudrais dire à Monsieur propos Perrault. De la législation, c'est que, étant donné que, on va peut-être le dire à nouveau, les magistrats hésitaient à condamner les femmes, hein, pour bien maintenir la répression, ça a été correctionnalisé en 1923. Hein. Alors, on a l'impression que si ça devient correctionnel, c'est moins grave. Pas du tout. Parce que les tribunaux d'assises étaient plus indulgents. La correctionnelle, c'est plus ferme. Hein. On n'a que des magistrats, et à ce moment-là, on peut leur donner des consignes. C'est pour ça que ça avait été...
Parce que les jurys d'assises sont plus indulgents. C'est-à-dire, les jurys populaires sont plus indulgents que les magistrats.
À cette époque-là, pour ça, oui. Absolument.
Michel Perrault, vous évoquiez les deux grands pôles d'opposition que sont l'Église catholique, les Églises en général, mais l'Église catholique en particulier et le Parti communiste. Mais dans ces années 50-60, il y a, si je puis dire, une troisième voie qui est celle du planning familial, qui est créée en 1960, qui est dont tout le combat est pour en faveur de la contraception, mais qui est assez réservé sur la question de l'avortement. Je ne sais pas, l'une d'entre vous, Michel Perrault.
Oui, le planning familial n'est pas... évidemment, son rôle, c'est de développer la contraception. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour les femmes de façon générale. Mais le planning familial soutient les...
Pardon, contraception qui, à l'époque, est encore...
Bien sûr, comme vient de dire Sylvie. Oui, oui, absolument. Oui. Oui, oui.
Mais, et je reprends une des déclarations d'Evelyne Sullerot en 1960. Il ne faudrait pas que les femmes oublient, devant les ennuis de la grossesse, qu'elles ne sont pas seules en cause. Elles font partie d'un couple et l'enfant appartient aussi à son père. Sylvie Chaperon.
Oui, mais c'est-à-dire que le planning familial, alors qui a été fondé d'abord sous le titre La maternité heureuse en 1956, luttait contre l'avortement par la contraception. C'était un argument hein, de toutes ces militants et militantes, qui sont beaucoup des médecins d'ailleurs. Il s'agit de lutter contre l'avortement en autorisant la contraception, qui n'est pas légale en France, contrairement à beaucoup de pays européens à la même époque. Hein.
Ou de favoriser la contraception pour éviter l'avortement, si on peut le dire autrement.
Oui, tout à fait.
Non, mais... vous dites lutter contre l'avortement. C'était à ce point-là dans les...
C'est un des arguments qui est mis en avant. C'est pas le seul, évidemment. Hein, mais un autre argument, c'est l'harmonie conjugale, le bonheur de la famille, avoir des enfants désirés.
La naissance heureuse.
Naissance heureuse, famille heureuse, couple heureux, sexualité épanouie, et c'est donc beaucoup moins politique que les mouvements néo-malthusiens pouvaient l'être au XIXe siècle. C'est on est plus dans un registre de la santé publique et de droit à l'émancipation et à l'épanouissement.
Et en même temps, on n'a pas encore la pilule, et donc l'avortement est un élément important de la contraception, puisque dans le manifeste des 343, on va même parler d'un million d'avortements par an. Michel Perrault.
Bien sûr, les avortements étaient très nombreux. On n'a pas vraiment de statistiques, mais ce sont des milliers, voire peut-être des centaines de milliers. Dans le manifeste, d'ailleurs, on parle de millions de femmes. Mais on parle aussi peut-être pas seulement de la France, d'ailleurs, en l'occurrence. Par conséquent, oui, il y a un problème véritable qui existe. Et d'ailleurs, le manifeste s'appuie bien sur les faits. Et il donne même le manifeste, le texte est très court, très intéressant, très court, et donnant des éléments concrets, faisant même allusion aux méthodes qui sont employées par l'avortement, qui sont épouvantables, et qui provoquent évidemment une forte mortalité de femmes.
On va y venir, je reviens un tout petit cran en arrière, les choses évoluent quand même dans les années 60. François Mitterrand, dans sa campagne de 65, candidat de la gauche, de toute la gauche, se prononce en faveur
de la contraception.
De la contraception, j'allais dire. Oui, pardon. De la contraception. Et de fait, une loi est votée en 1967 par une majorité gaulliste.
Avec Lucien Neuwirth, dont la personnalité est particulière, hein, Michel Perrault.
Bien sûr, Lucien Neuwirth est franc-maçon et radical, sénateur, et il est favorable à la contraception. Il n'est pas le seul. On pourrait parler du docteur Simon, qui était un peu son alter ego, qui a été grand maître de je ne sais plus
la Grande Loge de France.
Oui, la Grande Loge de France. Et il y avait donc un courant qu'on pourrait dire progressiste, qui en tout cas voyait le drame que ça pouvait constituer et qui était pour. Et en effet, la loi de 67 est pour la contraception, c'est la loi sur le développement de la contraception. Ce qu'il faut bien voir, c'est la difficulté de passer à la pratique. Il y avait des difficultés dans les pharmacies. Si une femme se présente pour avoir des contraceptifs en 68, par exemple, c'est loin d'être facile. On la regarde de travers, comme une femme un peu pervertie. Il faut bien voir la mentalité de l'époque.
Il y a un décalage entre cette contraception théoriquement disponible et la réalité, d'où les avortements.
Bien sûr.
C'est l'occasion de vous demander de rappeler à ceux qui sont plus jeunes quel était le rapport, à quel point la sexualité était taboue à cette époque. Tabou dans les familles, tabou dans le débat public, tabou. Enfin, était un tabou.
On ne parle pas de sexualité.
Exactement.
On ne parle pas de sexe. Le mot clitoris, Sylvie Chaperon, comme on l'a dit, lui a consacré un livre, mais c'était un mot qu'on ne prononçait pas. C'était véritablement archi-tabou, la sexualité.
Non, parce que c'est inimaginable.
Il n'y avait pas d'éducation sexuelle.
Je pense par exemple à ma fille, pour elle, c'est absolument inconcevable qu'on ne parle pas de ça.
Sylvie Chaperon.
Simone de Beauvoir provoque le scandale, justement, avec le deuxième sexe, parce qu'elle, elle parle de clitoris, de vagin, d'orgasme, de jouissance.
Plus, c'est 1949.
C'est 1949.
Donc c'est encore plus.
Et là, elle lance un pavé dans la mare. Et c'est vrai que les militantes du planning familial, qui reçoivent les femmes qui veulent avoir des contraceptifs, sont tout à fait effarées de la misère sexuelle, c'était le mot de l'époque, et de l'ignorance aussi des femmes et des couples en général par rapport à toutes ces questions de sexualité et de contraception.
On est loin de la sexologie que vous avez étudiée, Sylvie Chaperon.
Alors, il y a d'ailleurs dans le planning familial des sexologues. Il y aura même la volonté de créer un institut de sexologie dans les années 60, ce qui va d'ailleurs pas plaire à tout le monde dans le planning. Et les sexologues, d'une manière générale, sont favorables depuis très longtemps à la contraception.
Un an après la loi Neuwirth, le mouvement de 68... Vous employez l'expression de déclencheur de débat, déclencheur d'un mouvement d'émancipation. Pourtant, quand on se souvient un petit peu de l'époque, le gauchisme, en tout cas des premières années d'après 68, n'était pas particulièrement sensible à cette question.
Michel Perrault.
Oui et non. Bien entendu, 68, pour les étudiants, c'est politique, d'abord.
C'est la lutte des classes, c'est pas la lutte des femmes.
La lutte des classes, c'est pas la lutte des femmes. Et je sais que quand nous avons créé à Jussieu, en 73, le premier cours sur l'histoire des femmes, les étudiants, mal, nous contestaient gentiment, mais ils nous contestaient quand même. Ceci étant, en 68, il est quand même question de sexualité. Notamment de la part des homosexuels, qui sont persécutés, finalement, tout à fait. Et il y a eu, dans la Sorbonne de 68, quelques réunions sur la sexualité, diligentées par le Phare, notamment, Anne Zelinsky, d'ailleurs,
le Front est très présent. Le Front homosexuel d'Action révolutionnaire.
Voilà.
Evelyne Sullerot va débattre aussi à la Sorbonne, question du féminisme.
Absolument, absolument. Donc, ça traverse, il y a une espèce de traversée, mais les plus engagés, comme politiques, disent « Ah ben oui, mais bon, ça c'est un peu... »
Les têtes d'affiche de 68, ce ne sont pas des femmes, par exemple.
Non, ce ne sont pas des femmes. Mais la sexualité est quand même débattue, notamment dans le groupe « Vive la Révolution » avec son magazine « Tout ». Qui aborde...
Oui, qui est très en avance par rapport à d'autres groupes, trotskistes notamment, plus fermés sur ces questions.
Et beaucoup de féministes du MLF viennent de ces groupes d'extrême-gauche. Et justement, elles rejettent justement cette espèce de puritanisme, cette verticalité du pouvoir, ce refus d'aborder les questions de bonnes femmes, comme on disait.
Elles vont jouer du reste un grand rôle dans les actions militantes, ces militantes féministes qui sont issues en partie de l'extrême-gauche.
Le MLF, c'est 1970, la création.
Oui.
1970, et alors il y a quelque chose dont il faut sans doute parler, c'est que vous avez parlé de l'homosexualité, mais c'est la conjonction entre des militantes féministes qui sont elles-mêmes lesbiennes et qui, pour certaines d'entre elles, ont connu le mouvement de libération des femmes aux États-Unis. Je pense à Christine Delphi ou Emmanuelle de Lesseps.
Oui.
Et il y a des Américaines aussi qui sont
présentes.
Qui déposent la gerbe.
Sous l'Arc de Triomphe, il y a aussi des Américaines.
Oui, il y a aussi des Américaines.
Qui avaient participé aussi au fameux numéro de partisans aussi.
Ça, je ne me souviens plus si elles ont participé à ce numéro-là, mais elles sont présentes dès les débuts.
Oui.
Il y a la volonté d'imiter ce qui se passe au Royaume-Uni et
aux États-Unis
depuis un an ou deux.
Women's Lib est une source d'inspiration.
Tout à fait.
Oui. Et les départements anglo-américains dans les universités sont des passeurs formidables. Je me souviens de Françoise Bache, qui est décédée il y a 2 mois maintenant. C'était extraordinaire parce qu'elle connaissait tous les mouvements américains, anglais, organisaient des colloques, etc. Ça circulait beaucoup, beaucoup de cette manière.
Didier l'a rappelé dans son introduction, la devise du MLF, en tout cas des plus militantes, c'était effectivement un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux. C'est perçu à ce moment-là et c'est voulu à ce moment-là comme une remise en cause fondamentale du modèle millénaire qui est fondée sur la maternité. C'est une vraie remise en cause de la hiérarchie homme-femme. Comment c'est...
Elles apportent dans la question de l'avortement un point de vue qui est complètement nouveau, enfin même si c'est pas les premières à le dire, c'est que c'est à la femme de décider et à la femme seulement. Alors qu'à l'époque, il y a déjà des projets de loi qui sont en cours, il y a déjà des associations qui se sont créées, qui sont issues d'ailleurs du planning familial, l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, qui est créée en 69, qui veut libéraliser l'avortement, mais selon un modèle, on va dire, d'élargissement progressif de l'avortement thérapeutique. Donc donner de plus en plus de cas où on a le droit d'avorter. Viol, problèmes de santé, détresse psychologique, etc., etc. Mais ça, c'est les féministes qui vont aller plus loin, radicaliser la question en disant non, c'est pas à des médecins, c'est pas à des assistantes sociales de décider, c'est aux femmes et aux femmes seulement. Et là, ce sont elles qui montent cette question-là et le manifeste est fait pour ça, pour couper l'herbe sous le pied, en quelque sorte, de projets plus libéraux, mais moins mettant audacieux. Moins la femme au cœur de la question.
Et justement, on arrive à ce manifeste dont le langage est daté un peu, même s'il y a aujourd'hui des slogans qui perdurent. Mais enfin, on parle de bourgeoisie qui veut absolument maîtriser le corps des femmes. On est en plein débat sur la conscription. Et il y a cette idée que les bourgeois ne veulent pas l'avortement parce qu'ils veulent des enfants qui puissent après être tués à la guerre. C'est ça qui est écrit dans le manifeste. On sent que tout se mélange, l'antimilitarisme, la question de l'avortement, la lutte des classes un peu, c'est l'époque.
Les fascistes, le terme fasciste est employé pour désigner Michel Debré, le président Pompidou, le pape, tout ça sont des fascistes dans le vocabulaire de l'époque, c'est très étonnant.
Oui, c'est
surprenant.
C'est peut-être l'aspect le plus daté, finalement, du manifeste, qui reste quand même, j'allais dire éternel, j'en sais rien, mais en tout cas intemporel. C'est vrai, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que les critiques faites aux féministes, c'est des bourgeoises. Et c'est voir des petites bourgeoises. Donc peut-être avait-elle besoin justement de critiquer cela pour montrer qu'elle n'en était pas en définitive. C'est possible parce que c'est une critique qui a été traînée longtemps par les féministes. Il y a pas encore longtemps. C'est pas intéressant parce que c'est la petite bourgeoisie. Même Pierre Bourdieu, quand il écrit dans les années 90, dans les 20 ans plus tard, la domination masculine, il y a toujours cette idée que le féminisme, c'est les petites bourgeoises. Voilà. Donc, peut-être y a-t-il cela aussi.
Ça a été même un débat au sein de ce courant féministe autour du manifeste. On va avoir les courants dilutes de classe par rapport à d'autres courants qui sont, entre guillemets, plus essentialistes. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, malgré tout, Sylvie Chapon.
Oui, oui. Mais l'argument de classe qui est employé dans tout l'argumentaire des partisans pour l'avortement, il est important parce que quand on a 3 000-4 000 francs, on peut aller avorter en Grande-Bretagne, en Hollande, on peut trouver une gynécologue ou un gynécologue qui va le faire. Mais quand on n'a pas cet argent-là, on est entre les mains de réseaux plus clandestins, de faiseuses d'anges, et c'est là où souvent il y a des problèmes. Donc la question de la classe sociale est étroitement intriqué quand même. Et d'ailleurs, il y a effectivement des débats à l'intérieur du MLF entre celles qui veulent jouer beaucoup sur cet argument, Gisèle Halimi en l'occurrence, hein, beaucoup, et celles qui, au contraire, veulent montrer que l'avortement pénalise toutes les femmes et que c'est une histoire de classe de sexe et non pas de classe sociale, hein, puisque l'interdiction de l'avortement touche et complique la vie de toutes les femmes, qu'elles soient bourgeoises ou qu'elles soient ouvrières. Il y a des débats effectivement très forts à l'intérieur du MLF sur ces enjeux-là.
Je fais une petite parenthèse, vous évoquez le fait d'aller en Angleterre. C'était le pays, le seul pays où presque à l'époque où il était possible de...
Non, il y a la Hollande, la Suisse. Et dans ces pays-là, ce qui s'est passé, c'est une libéralisation progressive de l'avortement thérapeutique. Et les féministes, dans ces pays-là, réclament que ce ne soit plus d'une commission médicale qui décide, mais bien les femmes elles-mêmes. Donc il y a les mêmes combats, même si l'avortement est beaucoup plus facile à obtenir dans ces pays-là.
Qui prend l'initiative de ce manifeste ? D'où ça sort et qui l'écrit ?
C'est un groupe du MLF qui s'appelle le groupe avortement, hein, qui se réunit, alors qui est beaucoup issu de Féminisme Marxisme Action, qui est un groupe qui est apparu dès la fin des années 60.
Féminisme Marxisme Action.
Alors ça s'appelait au début Féminin, Masculin, Avenir. Beaucoup plus soft et consensuel. Après 68, il y a une radicalisation qui se voit dans le changement de sigle. Féminisme, Marxisme, Action. C'est là où on va trouver Anne Zelinsky, Christine Delphi, Emmanuel de Lesseps et d'autres. Et ce sont elles qui vont fonder ce qu'on appelle le groupe avortement et qui veulent faire quelque chose. Et elles sont ensuite contactées par des journalistes du Nouvel Obs qui leur proposent la formule du manifeste. Et là, il y a débat. Il y a débat dans le MLF. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on va dans la presse bourgeoise ou bien est-ce qu'on reste dans la presse féministe, hein? Est-ce qu'on accepte, parce que le nouvel observateur veut bien publier un manifeste, mais à condition qu'il y ait des célébrités pour que ça ait un impact plus important. Et là, effectivement, à nouveau débat dans le MLF, oui, mais non, toutes les femmes sont concernées, il faut des femmes anonymes. Finalement, il y aura effectivement à la fois des militantes de base du MLF, hein, qui vont collecter les signatures, et à la fois des grands noms, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Catherine Deneuve, Gisèle Moreau, etc.
Des romancières, des
actrices. Des romancières, Christiane Rochefort, Delphine Seyrig.
Qui joue un très grand rôle. Oui.
Et chacune va collecter dans son milieu, dans son réseau, les signataires.
Et là, justement, on a un panel de signataires, femmes, qui va... c'est un spectre assez large, c'est pas simplement des courants très précis, par exemple de la gauche, tout ça va au-delà, d'une certaine manière. C'est ce qui va faire sa force.
Oui, certainement, c'est ce qui va faire sa force. Ça reste quand même, et c'est normal, hein, très ciblé. Au fond, tout le monde n'était pas appelé à signer. Hein. Il y a eu d'ailleurs pas mal de pétitions à l'époque pour dire son soutien au manifeste du Nouvel Observateur. Il y en avait beaucoup.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une frustration de ne pas avoir signé. Donc voilà. On a continué de collecter des signatures par la suite. Voilà.
Une sorte d'effet de ricochet.
C'est ça, exactement. Mmh. Il y a eu beaucoup, beaucoup de signatures, de pétitions à l'appui du manifeste.
Et des hommes qui voulaient, signer.
Et justement, parmi ces hommes, il va y avoir ce manifeste des médecins. Puisque
ça, c'est très intéressant.
C'est le moment où les médecins, en particulier, pour le coup, très engagé à gauche, si ce n'est à l'extrême gauche, rentre dans la bataille de l'avortement,
oui,
Michel Perrault.
Par exemple, Joannet. Joannet, dont la femme, la compagne, la femme, peu importe, était très engagée dans le MLAC. Il faudra qu'on dise un petit mot du MLAC. Depuis le début, le corps médical est très divisé. Il y a une majorité du corps médical qui est hostile à l'avortement. Hein.
Et l'ordre des médecins.
L'ordre des médecins est absolument contre. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse clause de conscience qui sera dans la loi Veil, dont on va certainement parler. Bon, mais il y avait quand même les jeunes médecins, notamment, qui étaient absolument favorable, évidemment, à ce manifeste.
Et justement, vous avez parlé du MLAC, donc ce mouvement de libération qu'appelle le manifeste, la fin du manifeste se termine par « il faut créer un mouvement de libération pour l'avortement ».
Et la contraception.
Et la contraception, et à ce moment-là, va commencer à se structurer des comités. Et dans cette structuration, les médecins vont jouer un grand rôle parce que va apparaître une nouvelle méthode d'avortement. C'est la méthode Karman, Sylvie Chaperon.
C'est la méthode Karman de son inventeur Harvey Karman, qui est un psychologue états-unien. Et la méthode commence à se diffuser en France en 1972.
Il faut rappeler quel était l'intérêt de la méthode Karman.
Alors, l'intérêt de la méthode Karman, c'est qu'elle est beaucoup plus légère, entre guillemets, beaucoup moins technique que la méthode traditionnelle du curetage, où il faut dilater le col, puis introduire une curette et faire un curetage, et qui est en plus très très douloureuse. La méthode Karman, c'est une petite sonde plastique, stérile, mais très fine, qui est introduite dans le col de l'utérus et qui fonctionne par aspiration avec une seringue. Hein, une seringue, on aspire le contenu de l'utérus jusqu'au 8e semaine. Hein, au-delà, c'est beaucoup moins efficace. Et cette méthode permet effectivement de se passer de la technicité et du savoir médical important. Elle peut même être pratiquée, et dans le MLAC ce sera fait, par des non-médecins. Par même des gens qui ne sont même pas du personnel de santé.
Oui, il y a un excellent film qui est paru, sorti récemment, il y a pas longtemps, oui. Blandine Lenoir, hein, qui s'appelle Annie Colère, et qui porte exactement sur la méthode Karman, qui met en scène la diffusion de la méthode Karman, qui permet en effet aux femmes de se faire avorter beaucoup plus facilement, et de les aider. Enfin, ça diffuse l'entraide entre les femmes. Ça, c'est formidable. À la limite, il y a même plus. Enfin, il y a besoin de médecins, bien sûr. Mais sans médecin, on peut également accéder à l'avortement.
Et vous avez parlé de films. Il y a un film qui va populariser et qui va être un instrument de lutte. C'est Histoire d'art, qui va être un film interdit par les autorités et interdit à la diffusion publique et même privée. Et ça va engager des batailles extrêmement violente autour de ciné-clubs. je me souviens de ciné-club de lycée qui essaye de passer ce film et la police rentre dans le lycée.
Oui, tout à fait.
Belmont et Sartel.
Il y a un jeu du chat et de la souris entre la police et les militants qui diffusent le film. Parce qu'effectivement, il est interdit en France. Enfin, c'est un film français d'ailleurs, il est interdit en France. Et le mouvement Laissez-les vivre, qui est très important aussi, il faut le rappeler, ce mouvement hostile à l'avortement, dénonce...
Le professeur Lejeune dénonce
dès qu'il y a une projection programmée quelque part, prévient la police. Donc il y a tout un combat, ne serait-ce que pour diffuser le film qui explique la méthode Carman.
Mais alors, dans ce combat, il y a quelque chose qui est, comme vous avez dit, du jeu du chat et de la souris. En réalité, Elle Mlac et ses militants assument en partie ouvertement le fait d'être dans l'illégalité, parce que le MLAC, par exemple, donne des rendez-vous pour organiser des avortements. Il y a quelque chose qui est, je suscite d'une certaine manière la réaction des pouvoirs publics pour les pousser à bout, c'est ça un peu le...
Ah, c'est de la désobéissance civile, tout à fait.
Oui, tout à fait. Oui. Le planning le faisait déjà, le planning familial le faisait.
Puisqu'il vendait des contraceptifs,
plus discrètement, mais il le faisait. Ce sont des exemples de désobéissance civile, en effet, qui changent la société en profondeur. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est que là, il y a la société, ou des courants de la société, poussent à la loi. La loi vient pour, à la suite de ces mouvements secrets, clandestins de la société.
Plus il y a d'illégalité, et plus d'une certaine manière, la loi apparaît comme pas appliquée. Je me souviens de cortèges lycéens autour de la lutte contre la loi Debré, une autre loi. Debré faisait partie des fascistes, comme dans le manifeste, comme le rappelle Gérard Courtois.
Michel Debré.
Michel Debré, le
l'ancien
père.
L'ancien Premier ministre.
Voilà. Les lycéens criaient « Ah, Debré, si ta mère avait connu l'avortement !» pour dire à quel point ce débat était populaire.
Mais la tribune de Charlie Hebdo, dont on a gardé le titre, qui a engrossé les 343
salopes.
Voilà, donc c'est un soutien à la manière de Charlie Hebdo, un peu ambigu quand même. Mais il y a une caricature de Michel Debré qui répond « C'était pour repeupler la France ».
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leschi.
Il y a un épisode qu'on a sauté, mais qui est essentiel, c'est le procès de Bobigny qui intervient en 1972. Le MLAC, c'est 1973, je crois, de mémoire. Et ce procès de Bobigny a été une caisse de résonance sur cette question de l'avortement. Procès plaidé en défense d'une jeune fille par Gisèle Halimi. Ça a eu une résonance énorme à l'époque.
Oui. Le procès de Bobigny est très important. Notez bien qu'il vient après le manifeste.
Après le manifeste, absolument.
Donc c'est dans ce mouvement qui va alors croître de manière considérable. Et c'est, en effet, Gisèle Halimi joue un rôle considérable. C'est très important, Gisèle Halimi, parce que elle est à la fois une militante et une juriste. Et elle sait combien c'est important pour la démocratie que les choses soient dans la loi. Ça, c'est la marque d'une juriste, absolument.
Et en même temps, c'est une militante parce qu'elle fonde Choisir avec Simone de Beauvoir.
Ben, évidemment, c'est une militante, tout à fait. Et par ailleurs, elle a le sens de l'opinion publique. Au procès de Bobigny, elle fait intervenir de grands professeurs catholiques, par exemple. Faut pas oublier le problème de l'opinion catholique en France pour toutes ces questions-là. Elle fait intervenir des sommités, en quelque sorte, des hommes. En quelque sorte, elle veut montrer combien c'est respectable, important de se battre vraiment sur ce terrain.
Et c'est d'autant plus important qu'il y avait par ailleurs des figures féminines connues, comme Evelyne Sullereau ou comme Françoise Giroud, qui n'étaient pas aussi militantes sur la question de l'avortement, que ce soit Evelyne Sullereau ou Giroud, qui étaient favorables à la contraception, mais pas à l'avortement.
Elles étaient favorables à un avortement élargi, oui, à un avortement... Voilà. avec des conditions plus élargies. Mais elle n'était pas favorable à l'avortement droit décidé par les femmes. Voilà.
Françoise Giroud refuse du reste le manifeste. Elle dit « Eh bien, moi, je dis non. Je dis qu'être une femme libre, entre guillemets, autant qu'on peut se prétendre libre, c'est apprendre à se prendre en charge, c'est-à-dire, sur ce point précis, à utiliser des contraceptifs. » C'est très violent, en fait.
Mais il y avait aussi une différence entre le docteur Lagroua-Veyalé et Evelyne Sullereau. Evelyne Sullereau est protestante et elle est plus ouverte sur ces questions-là. Lagroua-Veyalé était vraiment pas favorable du tout à l'avortement, hein, ça c'est vrai.
Mais Michel Perrault, vous écrivez, enfin vous dites dans votre dernier livre, le droit à l'avortement a réalisé l'unité des femmes. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, historiquement, à ce moment-là ?
L'unité, c'est peut-être un mot excessif, mais en tout cas, une confluence. Une confluence, justement, entre les femmes du peuple, qui, comme vient de le dire Sylvie, étaient celles qui souffraient le plus de cette situation, et les femmes de milieux plus favorisés. Donc là, ça a quand même créé une véritable convergence sociale, d'une certaine manière, et des différents mouvements qui se sont retrouvés, et même celles qui étaient un peu réservées, comme Lagroua-Veyalé, etc., elles y sont allées en définitive. Voilà, ça a créé un véritable mouvement beaucoup plus unitaire, comme on n'en voit pas beaucoup. Hein. Et il ne faut pas oublier les manifestations de cette époque-là. C'était des manifestations de rue, comme les femmes n'en avaient pas, au fond, tellement l'habitude. Les femmes, elles ont toujours manifesté, mais elles manifestaient pour le droit au pain, enfin, comme les émeutes de subsistance. Là, elles manifestent pour elles. Hein, c'est capital. Il n'y a pas tellement de. Enfin, il y a eu des manifestations pour le droit de vote, d'accord, mais beaucoup moindre. Il y avait moins de monde. Là, il y avait du monde.
Et c'est cette confluence, comme vous dites, qui finit par convaincre le président Giscard d'Estaing, nouvellement élu. Ben d'ailleurs, il l'évoque dans sa campagne de sauter le pas, si je puis dire, et de légaliser l'avortement.
Bien sûr. Là, on est en 1974.
Voilà, il faut apaiser cette société. Et puis, il y a des gens très respectables, comme Neuwirth et quantité d'autres, qui demandent ça déjà depuis un certain temps. Bon, il faut y aller. Et ça va être l'appel à Simone Veil.
Et Simone Veil, une personnalité forte, particulière, mais qui a cette subtilité d'essayer de dépolitiser le sujet pour le rendre assez technique, Sylvie Chaperon.
Oui, alors déjà, elle ne va plus parler d'avortement, mais d'interruption volontaire de grossesse pour éviter effectivement toutes les connotations négatives qui étaient associées à
techniciser en quelque sorte le débat.
Oui, oui, et puis le rendre moins politique. Hein, elle parle surtout de santé publique, hein, de toutes les conséquences des avortements clandestins. Et puis surtout, la loi est bafouée, hein, donc elle n'est plus respectée, la loi, depuis 73, donc il est nécessaire de la faire évoluer. Là où Simone Veil a fait quelque chose de très fort quand même, c'est qu'elle a choisi que ce soit les femmes qui décident, ce que réclamaient les mouvements féministes, mais beaucoup moins le milieu médical et beaucoup moins la génération, on va dire, du planning familial. Donc il y a un pas quand même, hein, vers ce que demande le mouvement féministe. Par contre, pour que ça passe en quelque sorte, ben il va y avoir ça va être lesté par toute une série de conditions qui vont rendre, bon, déjà les délais sont assez courts, il n'est pas question de remboursement à la sécurité sociale, il n'est pas question de l'autoriser aux mineurs.
Il y a la clause de conscience pour les médecins.
Il y a la clause de conscience par les médecins, et puis surtout, on dit bien que ça doit être fait exclusivement par des médecins dans des milieux hospitaliers. Donc là, terminer la méthode Carman dans des appartements privés tels que ça avait pu être fait auparavant.
Et c'est ça qui va un peu diviser le MLAC au lendemain du vote de la loi, Michel Perrault.
Oui, bien sûr, parce que à ce moment-là, le MLAC trouve qu'il y a trop de restrictions et finalement il reste encore des frontières à franchir, hein, qui le seront plus tard en grande partie grâce à Yvette Roudy, enfin au gouvernement Mitterrand.
Avant Yvette Roudy, plus tard. Parmi les restrictions, oui. Il y a cette clause de revoyure, puisqu'en réalité, voilà. Cette loi de 1974, elle est temporaire. 1975, elle est temporaire pour quelques années. et on doit en rediscuter en 1979.
Voilà, ça a été aussi une façon de faire avaler la pilule, si je puis dire, hein, par le Parlement, que de dire que ce serait à l'essai, hein, et qu'on reviendrait ensuite en 79 sur cette loi pour la voter définitivement.
Et en 79, de nouveau, un mouvement très fort de femmes, de manifestations, de jeunes, pour essayer d'appuyer le renouvellement.
Octobre 1979, oui, une grande manifestation à Paris et ailleurs en France, dans beaucoup de villes, exclusivement de femmes. C'est une manifestation qui se veut non mixte, même s'il y a beaucoup d'hommes en soutien sur les trottoirs. Hein. Et pour forcer la main un peu, alors à l'époque, c'est Monique Pelletier, hein, qui est à la charge de cette loi définitive, qui va donc être reprise quasiment dans les mêmes termes que la loi de 75.
Il y a un aspect qu'on a pas mentionné, mais qui est important, c'est les conditions dans lesquelles la loi Veil a été adoptée. Par qui la violence des débats et la violence à son égard, enfin tout ça témoigne quand même que c'était un sujet extrêmement difficile encore dans la France de 1974, malgré l'engagement du nouveau président.
Michel Perrault.
Oui, Simone Veil s'est appuyée sur la gauche, femme de droite, bon, sur la gauche et une partie de la droite. Mais si la loi est passée, c'est pas à cause de cela.
Une partie minoritaire de la droite, si j'ai bonne mémoire, non ?
Une partie minoritaire.
Minoritaire, oui.
Tout à fait minoritaire. Et vous avez fait allusion aux attaques dont Simone Veil a été la cible. Mais ça a été considérable, vraiment considérable. Elle a été injuriée.
Et il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
Et bien sûr, oui. Oui.
Mais elle a été.
Il y avait toujours l'idée, hein, à Auschwitz et l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, c'est voilà, hein, c'est pareil. Et comment elle peut-elle
ancienne déportée,
faire cela, elle, ancienne déportée, comment est-ce qu'elle peut participer à ce massacre en quelque sorte? C'était d'une violence inouïe, hein, et ça a rendu. Je pense, elle l'a dit tout au moins, Simone Veil plus féministe. Hein. Jusque-là, elle ne disait pas tellement qu'elle était féministe. Et à partir de là, moi je l'ai entendu personnellement, hein, plus tard, dire « Je suis féministe. Je suis féministe. »
Finalement.
Oui.
et elle a été à l'époque, ça mérite d'être mentionné, je pense, l'un des plus solides soutiens pendant ce débat parlementaire très difficile, ça a été le Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac, me semble-t-il, qui a été beaucoup plus en soutien.
Chirac, il n'était pas vraiment en soutien. Valéry Giscard d'Estaing, oui.
Chirac ne l'était
pas. Chirac, non.
Il me semblait que pendant le débat, beaucoup. Il avait vraiment aidé Simone Veil à passer ce cap difficile, mais peut-être que...
Je pense pas. Je pense pas que ce soit lui.
C'est Giscard qui.
C'est Giscard qui était.
Mais je pense que il me semblait que dans le débat, il avait été, disons, classe. Il avait été classe.
Alors peut-être.
Non.
À confirmer.
À vérifier. à vérifier. Donc, c'est voté en 75. Enfin, c'est promulgué en 75. De nouveau en 79. À ce moment-là, quand même, il y a, après 1979, il y a un peu une dissolution du MLAC et de ses mouvements, puisque ça semble acquis, et va arriver 1981, qui va essayer d'institutionnaliser, de renforcer. Et il y a tous ces débats autour de la clause de conscience des médecins, qui a été pendant très longtemps un frein, quand même, à la pratique de l'avortement.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la loi soit votée pour qu'elle soit appliquée de façon facile sur tout le territoire. Il y a eu des réticences fortes. Et d'ailleurs, le MLAC s'est un peu reconverti à ce moment-là, justement, pour faire appliquer la loi, pour vérifier que dans les services hospitaliers, on accueillait bien les femmes qui voulaient avorter, etc. Donc il y a eu tout un travail pour obliger les médecins à prendre en charge. Parce que voilà, c'est pas très gratifiant pour les médecins, c'est mal vu. Donc finalement, sorti des médecins militants qui venaient du planning ou qui venaient du GIS, groupe Information Santé, ou qui venaient du MLAC, il y avait peu de médecins qui pratiquaient l'avortement. Donc il y a eu tout un travail, hein, pour convaincre les médecins hospitaliers du privé ou du public, d'ailleurs, parce que ça pouvait être dans les cliniques, de pratiquer des avortements.
Au début des années 80, pour situer les choses, on est donc 5 ans après l'adoption de la loi, on est, vous dites, c'était pas si simple que ça de se faire avorter. Il y avait combien à ce moment-là, à peu près, d'avortements en France? Comment on a des chiffres précis?
Alors, au début des années 80, je ne sais pas si on a des chiffres précis, mais on en a par la suite. C'est aux alentours de 200 000
par an.
Annuel, oui. Ça s'est stabilisé autour de 200 000 annuels, ce qui est élevé hein, par rapport à d'autres pays européens. Parce que finalement, il y a une pratique de la contraception qui reste pas si bien faite en France, en tout cas dans les années 80-90.
200 000, c'est encore le chiffre aujourd'hui. On parle de 200, 230 000.
Ça demeure élevé.
Ça demeure élevé.
Ça demeure excessivement élevé.
Justement, ça demeure élevé, mais c'est un sujet qui, de par le monde, reste encore extrêmement difficile, la question de l'avortement.
Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que cette interruption volontaire de grossesse, avortement, comme on voudra, c'est ce que Geneviève Fraisse a appelé d'ailleurs une révolution copernicienne. Ça, expression reprise par Françoise Héritier elle-même en montrant que c'est par là que la hiérarchie des sexes peut se modifier. Parce que les femmes deviennent maîtresses de la conception et par conséquent de leur sexualité. Il faut voir les enjeux qu'il y a autour de ça, ils sont absolument considérables. Par conséquent, c'est pas étonnant qu'il y ait une résistance qui continue, qui perdure en raison de la force même de ces enjeux. Et vous le disiez, on le voit bien aujourd'hui. D'abord, si on regarde l'Amérique latine, il y a peu de pays d'Amérique latine qui accèdent à l'avortement aujourd'hui. Il y a l'Argentine, le Mexique, je crois que c'est à peu près tout.
Et aux États-Unis, en Amérique latine, par exemple, on peut mentionner le combat de l'ancien président Bolsonaro, adossé aux évangélistes, pour refuser absolument d'avancer sur ce terrain-là.
Oui. Un enjeu toujours actuel. Oui. Et aux États-Unis, on voit bien que l'abolition du fameux arrêté qui avait fait que c'était national, voilà, supprimé, et on renvoie ça à la responsabilité des États, et par conséquent, les États à majorité républicaine sont susceptibles, il y en a d'ailleurs qui l'ont fait, de supprimer l'accès à l'avortement. Donc ça reste actuel.
Il y a des exemples positifs, au moins un, c'est l'Irlande catholique, qui a organisé ce référendum il y a 5 ans pour supprimer l'interdiction de l'avortement dans la Constitution. Donc, mais c'est vrai que globalement, on est plutôt sur des mouvements régressifs. Je pense par exemple à la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui s'est exprimée explicitement contre l'avortement, sans pour autant jusque-là avoir essayé de l'interdire. Mais enfin, on sent qu'il y a quand même des pulsions régressives, si je puis dire.
On sent que le sujet est tellement sensible que, pour reprendre le cas de l'Irlande, le mariage entre deux personnes de même sexe a été adopté avant l'autorisation de l'avortement.
Oui.
Et ce n'est pas le seul pays où on a eu ça. Et vous avez parlé de la sexualité. Il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est la convergence entre les femmes qui veulent libéraliser l'avortement et la question de la libéralisation de l'homosexualité. Il y a quelque chose, un front commun qui s'est fait, qui n'était pas pensable d'emblée d'une certaine manière et qui a été très important dans cette histoire.
Michel Peau.
Alors, front commun ou disons parallèle. Il y a eu en même temps un mouvement homosexuel important et en même temps un mouvement féministe. Alors, les homosexuels ont pu, les différents...
Avec des femmes qui étaient dans les deux.
Avec des lesbiennes qui pouvaient d'ailleurs choisir et qui avaient des stratégies différentes entre être dans le mouvement homosexuel, être dans le mouvement féministe ou être dans un mouvement stricto sensu lesbien. Mais bon, après, on ne peut pas dire que le mouvement homosexuel a soutenu explicitement les féministes sur la question de l'avortement, même si dans différentes tribunes ça a pu être fait. C'était pas leur enjeu, ils avaient un autre enjeu.
Les lesbiennes, si, moi, quand
les
même,
lesbiennes, oui.
Elles étaient quand même très présentes.
Oui, les lesbiennes,
et
oui.
Moi, je sais que c'était admirable, parce que pour elle, personnellement, à cette époque-là, il n'y avait pas l'enfant n'était pas accessible pour elle. Par conséquent, c'était absolument altruiste. Et d'une certaine manière, c'est aussi parce qu'elle se rendait compte de l'enjeu que ça pouvait représenter. Et Et c'est une révolution aussi pour le statut de l'enfant. Passer de l'enfant subi à l'enfant désiré, c'est une révolution. Et on le voit bien dans la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui est une société du désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant, pas toujours partagé, et d'ailleurs c'est très souhaitable que les femmes puissent faire leur vie sans avoir d'enfant. Mais c'est quand même quelque chose de désiré, on le voit bien pour les couples de lesbiennes, et on le voit bien pour les couples d'homosexuels. Voilà, et ben ça c'est la fameuse accès à l'interruption volontaire de grossesse qui est à la source de cette révolution-là aussi.
C'est une révolution, vous disiez copernicienne, pour reprendre le mot de Françoise Héritier, mais anthropologique. Parce que si on remet en cause la hiérarchie des sexes, si je puis dire, de manière un peu lapidaire, et si on change le rapport à l'enfant, ça change quand même l'ensemble de l'existence, d'une certaine
Bien
façon.
Sûr. Bien sûr, c'est une révolution anthropologique, ça change absolument le statut de la famille, du mariage, du couple, de la naissance, de l'enfant, de la sexualité, du rôle des deux sexes dans la sexualité. C'est une série de révolutions sur lesquelles nous vivons toujours, qui est toujours en cours.
On a évoqué le changement, le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême américaine sur cette question de l'avortement en 2022. Mais ça a des conséquences en France aujourd'hui, puisque c'est en réaction, au fond, à cette menace ou à cette éventuelle menace que des initiatives parlementaires ont été engagées. Une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée et au Sénat pour visant à inscrire le droit, alors j'allais dire le droit à l'avortement,
visant la liberté,
visant à inscrire l'avortement dans la Constitution pour le solenniser et le protéger, mais avec cette nuance que les députés ont adopté la formule du droit à l'avortement, les sénateurs ont adopté une formule plus, comment dire, plus évasive sur la liberté d'avorter. Dernier élément, le président de la République, au mois de mars, lors d'un hommage à Gisèle Halimi, a annoncé son intention de déposer un projet de loi à son tour sur cette question. Comment vous appréciez, comment vous analysez toutes ces démarches complémentaires?
Michel Perrot, vous en pensez quoi?
Ah ben je suis pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce que étant donné justement que ça demeure un enjeu frémissant, on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton, d'un backlash, comme on dit, et donc ce serait une sécurité supplémentaire. Ceci dit, les juristes devront veiller de près à ce qu'il n'y ait pas de piège, non plus, dans cette constitutionnalisation.
Je ne sais ce qu'on pense. Quel genre de piège imaginez-vous?
Oh, dans la formulation, c'est toujours important. Oui. Hein, en droit, la formulation, on est toujours au mot près. Non, je pense que cet effort est très louable. Après, c'est pas gagné, parce que pour que la Constitution soit révisée, il faut une majorité des deux tiers du Congrès. Donc là,
ou un référendum.
Ou un référendum. Donc on est au premier pas de ces démarches-là, mais je pense que c'est une saine réaction aux précédents américains et qui vise à éviter que ça se reproduise chez nous.
Dans le précédent américain, il y a quelque chose qui est en rapport avec une des évolutions techniques par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, c'est la pilule abortive, puisque on a une décision un peu paradoxale dont on comprend pas bien les finalités. On interdit l'acte médical, mais on laisse la pilule abortive toujours en circulation. Sylvie Chaperon, comment expliquer cela?
Alors, la Cour suprême n'a pas interdit l'avortement. Elle a laissé la possibilité aux États de le faire ou de ne pas le faire. Mais effectivement, elle n'a pas pris position contre la pilule abortive, ce qui peut paraître paradoxal. Là, j'avoue que je ne sais pas très bien comment interpréter cette subtilité. Je ne sais pas très bien.
Qui est devenu un instrument de contraception de plus en plus développé.
Oui. Oui, oui. Depuis les années 90, l'avortement médicamenteux est un...
Et presque est devenu important. Majoritaire dans la somme des avortements.
Pour les avortements avec des délais relativement courts, parce que pour les délais plus importants, je crois que c'est davantage le curetage ou l'aspiration qui est pratiqué.
Et donc... Ça reste, enfin, on approche du terme de cette émission, mais ça reste quand même un débat sans fin, si je puis dire, qui n'est pas clos, ça reste un droit qui reste fragile, tellement il remet en cause des modèles millénaires, en quelque sorte, non ? Enfin, est-ce que vous avez le sentiment que les choses, au fond, sont quand même suffisamment solidement établies ? Je parle de la France, ou qu'il y a matière à s'inquiéter ?
Est-ce que l'ordre patriarcal a été ébranlé, Michel Perrault ?
Ébranlé, oui, absolument, absolument. Mais pas aboli, hein. Et je pense qu'il y a en effet toujours des résistances cachées qui peuvent, encore une fois, se réveiller parce que les enjeux sont considérables. Et donc, oui, c'est fragile encore. C'est fragile encore. Ceci étant, il me semble qu'au moins en France, l'opinion, les femmes certainement, mais beaucoup d'hommes quand même aussi, sont convaincus que c'est un droit et qu'il faut le respecter. Donc, à la fois, j'aurais un certain optimisme sur le fait que même l'extrême droite en France n'ose pas trop en parler, parce que ils savent que c'est dans l'opinion, et l'opinion est favorable. Mais vous savez, on ne sait jamais. Il faut être très prudent dans tous ces domaines-là.
Oui, alors au niveau du droit, je pense que c'est assez solide. C'est plus dans la réalité des hôpitaux, quand les médecins partent à la retraite, les médecins militants qui partent à la retraite, qui ne sont pas toujours remplacés. Ça reste un acte qui est peu valorisé, qui rapporte peu, que les médecins n'ont pas envie de faire, en tout cas pas souvent, pas longtemps. Donc la pratique de l'avortement reste fragile en France. C'est bien pour ça qu'il y a souvent des femmes qui partent à l'étranger parce qu'elles ont dépassé les délais. Non pas qu'elles ont rien fait, mais elles n'ont pas trouvé à temps le lieu pour pratiquer un avortement.
Mon cher Didier, quelques mots de conclusion de cette passionnante discussion.
Écoutez, on n'a pas parlé de MeToo, mais enfin, MeToo atteste que la révolution féministe, elle a encore du chemin à faire, même si, comme vous l'avez dit, Michel Perrault, l'ordre patriarcal a été ébranlé. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la lutte pour avoir le droit de disposer de son corps a été quelque chose qui a changé les rapports d'amour, hein, les rapports de la sexualité, les rapports de genre, comme on dit, alors que les révolutions prolétariennes, qui ont été l'espérance d'une partie du XXe siècle, elles n'ont pas abouti à changer la vie, hein, puisque c'était ça la formule d'Arthur Rimbaud, changer la vie, et la vraie vie est ailleurs, comme on disait, et c'est d'une certaine manière la seule révolution qui tienne pour essayer de répondre aux vœux d'Arthur Rimbaud que la révolution féministe. Merci à vous, Michel Perrault. Merci à vous, Sylvie Chaperon.
Merci.
Merci beaucoup.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky, préparée par Seam Boutata, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Florent Bujon et Antoine Tropé. Demain, le manifeste de René Dumont pour une autre civilisation.